France Inter. Laetitia Gaillet. Le 6-9 de l'été.
Deux femmes ce matin dans le studio du 6-9 de France Inter pour ce grand entretien. Caroline Eliachef, psychanalyste et pédopsychiatre, vous publiez cette semaine chez Flammarion Françoise Dolto, une journée particulière. Et Catherine Dolto, vous êtes médecin, auteur de livres aussi. Alors j'ai commencé par votre profession, j'aurais pu faire l'inverse. Vous êtes aussi la fille de Françoise Dolto. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour, je suis psychothérapeute aussi.
Aussi, alors il y en a beaucoup, hein, vous savez.
Bonjour.
Bonjour. Le 25 août 88, disparaissait donc Françoise Dolto, pédiatre, psychanalyste. Cela fera 30 ans demain. Et si Françoise Dolto a beaucoup influencé de parents sur l'éducation des enfants, c'est aussi grâce au succès de l'émission qu'elle eut sur France Inter entre 76 et 78, Lorsque l'enfant paraît. Caroline Eliachef, dès le début de votre livre, vous dites « Je suis surprise, le nom de Françoise Dolto n'évoque rien ou presque chez ceux qui sont nés dans les années 80-90 ». J'avoue que moi aussi j'étais surprise, parce que j'ai aussi posé la question. Et comment on explique ça?
Est-ce qu'on a une idée? J'ai pas d'explication, j'ai eu la grande surprise car j'ai des belles filles qui ont entre 30 et 35 ans, avec qui évidemment j'échange, et quand je leur ai dit voilà ce que je fais, etc., est-ce que vous connaissez la Maison Verte, effectivement elle en avait jamais entendu parler. Donc je sais pas, peut-être avons-nous une responsabilité collective, mais finalement est-ce que c'est tellement surprenant? Je ne sais pas, je crois qu'il n'y a pas une explication. Prenez tous les gens qui sont morts il y a 30 ans, je suis pas sûre qu'on en parle encore.
En même temps, on est la génération des années 80-90, ce sont les héritiers, en tout cas en termes d'éducation, ce sont d'une certaine manière ceux qui en ont le plus bénéficié.
Probablement, mais moi j'ai l'idée qu'ils l'ont tellement intériorisé qu'ils n'ont même pas besoin de se dire « tiens, c'est grâce à ces émissions, c'est devenu leur nature », entre guillemets. Donc ils n'ont pas besoin à chaque fois de dire « ah bah tiens, c'est parce que j'ai entendu ça ou ça ».
Oui, Catherine Dolto, vous acquiescez ?
Oui, j'acquiesce. Je pense qu'il y a toujours un peu un effet purgatoire quand quelqu'un a été très connu et qui disparaît. Pendant un certain temps, on a besoin de l'oublier. Et je crois aussi, moi, parfois, quand je vais dans les colloques, j'entends des gens dire des choses que ma mère a dites pour la première fois et s'est battue pour ça, comme s'ils l'avaient toujours su. Ils savent pas du tout que c'est elle qui a amené ça. C'est comme ça, ça veut dire, c'est comme les frigidaires et les réfrigérateurs. Elle est tellement passée dans la pensée des gens qu'on fait pas la différence et on sait pas que ça vient d'elle.
C'est ça qui est amusant et c'est ce qu'on lit aussi dans votre livre. Hein. Vous décortiquez de manière fictive une journée particulière de Françoise Dolto, mais en même temps vous racontez finalement les grands moments de sa vie et ce qu'elle a apporté, et Caroline Eliachef. Et vous dites vraiment, et quand vous dites que c'est rentré dans le domaine commun, vous dites il y a eu un avant et un après Dolto, et la césure c'est 68 pour vous.
La césure, c'est 68, pas seulement pour Françoise Dolto. Il y a une césure en 68 dans la société française. Mais ce qui m'a paru intéressant, c'est de montrer que ce que disait Françoise Dolto, elle le disait bien avant 68. Dès qu'elle a commencé à s'exprimer, à écrire des articles, etc., elle a pratiquement toute sa vie dit la même chose, ce qui est assez surprenant, franchement, parce qu'elle disait des choses qui ça dégageait. Après 68, ces choses ont été entendues. Donc, c'est pour ça, d'une certaine manière, qu'il y a un avant et un après, mais pas dans sa pensée à elle. Sa pensée, elle l'a développée dès qu'elle a commencé à écrire, c'est-à-dire en 47, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale.
Elle était en avance sur son temps, Françoise Dolto?
Oui, elle était certainement en avance sur son temps depuis qu'elle était petite fille. Elle s'est pas révélée en avance sur son temps. Je pense qu'elle était en avance sur son temps dès qu'elle était petite fille et que dans sa famille, elle voyait ce qui se passait et qu'elle essayait de comprendre. Elle comprenait pas toujours, mais elle le comprenait avec un esprit tout à fait original.
Catherine Dolto.
Oui, ce qui est amusant, c'est qu'elle a dit en 47-49 des choses qui à l'époque faisaient sauter les gens au plafond sur les bébés et maintenant qui sont tout à fait prouvées par les neurosciences.
Et il y a aussi la manière de dire les choses,
oui.
Parce qu'elle vulgarise aussi la pensée psychanalytique.
Oui, elle a deux styles. Elle a un style où elle vulgarise et elle fait ça très bien. Et puis elle a des livres théoriques qui sont très très difficiles à lire, même pour des psychanalystes. Je vois Caroline.
Caroline, oui. Caroline Eliachef.
Oui, écoutez, sur les émissions de radio, par exemple, tout le monde parle des émissions de radio. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que ces émissions ont duré 2 ans. C'est rien. Quand vous pensez aux émissions mythiques dont on parle, Pivot et autres, c'est des émissions qui ont duré 20 ans. Ces émissions, elles, ont duré 2 ans et personne d'ailleurs ne se demande pourquoi elles se sont arrêtées. puisqu'elles avaient tellement de succès.
Vous l'expliquez dans votre
livre. Oui, je l'explique, mais ça m'a amusée.
Oui. C'est Jacqueline Baudrier qui va arrêter l'émission, qui va lui proposer...
Qui va lui proposer d'autres choses qu'elle a refusées, mais ça s'est arrêté quand même au bout de 2 ans. C'est assez rare qu'une émission, que ce soit la télévision ou la radio, ait un tel impact en durant aussi peu longtemps.
Alors, Catherine Dolto, vous avez travaillé avec votre mère sur cette émission « Lorsque l'enfant paraît ». C'était comment travailler avec votre mère ?
Oh, c'était formidable. J'ose dire que nous avons eu une belle relation d'amitié, en dehors du fait que nous étions mère et fille. Et le travail avec elle, c'était très léger, parce que elle faisait partie de ces gens qui peuvent dire « je me suis trompée, j'ai eu tort ». Voilà, ça c'est très agréable quand on travaille en équipe. Et elle me faisait une confiance à peu près totale. Donc c'était moi qui lisais tout le courrier, qui préparais chaque émission. C'est-à-dire j'arrivais, on travaillait le vendredi, on enregistrait chez elle toute la semaine. Et donc j'avais une chemise par émission que j'avais construite sur tel thème, etc. Des lettres qui avaient l'air de parler de la même chose et qui en fait parlaient du contraire ou des choses comme ça. Et puis je leur sortais les lettres et je leur avais souligné les passages importants, préparé les questions pour Pradel, etc. Parce qu'il y avait beaucoup de lettres qui faisaient 30 ou 40 pages. Donc ils n'avaient pas le temps de les lire entièrement. C'était... Donc je dégageais, je résumais, etc.
Et elle lisait tout après ?
Non.
Elle lisait vos résumés en tout cas ?
Oui, enfin je leur... Oui. C'était pas écrit. Je leur expliquais pourquoi j'avais pris telle lettre, je leur faisais lire les passages importants, etc. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les gens étaient prévenus du jour où on allait leur répondre et tous ceux qui avaient un problème similaire recevaient une lettre leur disant « ce problème sera traité tel jour ». Et ensuite, tous les autres avaient une réponse écrite de nous.
Alors oui, c'est un travail titanesque.
C'était titanesque, on passait notre temps. Moi, j'avais des cartables pleins. Et dès qu'on avait du temps de libre, on dictait du courrier.
Dans le livre de Caroline Eliachef, Catherine Dolto, on suit votre mère et on voit des journées incroyables. Il n'y avait jamais de temps mort chez Françoise Dolto ?
Pas tellement, sauf en vacances.
Ouais.
Non, pas tellement, elle était toujours... Parce qu'elle répondait à tout le monde, et elle, le téléphone n'était pas sur liste rouge, donc elle téléphonait, enfin, tout le monde pouvait l'appeler, donc elle était tout le temps sollicitée.
Et vous, là-dedans, en tant qu'enfant de Françoise Dolto, vous aviez votre... Enfin,
c'est quand on était petit, c'était pas pareil, ouais. Elle n'était pas connue. Elle dit qu'elle s'arrêtait à 6h du soir pour s'occuper de nous. Nous, on trouvait que c'était pas assez, mais je pense comme tous les enfants. Voilà, moi je disais que je voulais être démolie et remolie avec une maman qui ne travaillerait pas.
Mais vous avez dit, je ne sais plus où je l'ai lu, mais vous avez dit, elle avait toujours, quand elle avait du temps, elle prenait le temps pour une question, et même si c'était court, c'était 10 secondes de
voilà.
Bonheur.
Voilà, ce qui était intéressant chez elle, c'était une disponibilité totale. Si on avait un problème, on se cachait entre... À la sortie de son bureau, quand elle raccompagnait un patient, on sortait comme une fusée. Elle disait « voilà ce qui m'arrive ». Et elle écoutait totalement. Et elle disait « bon, c'est bien, j'ai entendu ». Si on était triste, elle faisait une petite consolation. Elle disait, et on en parlera ce soir.
Elle n'a jamais appliqué, alors c'est une question bête, ce grenouille sans doute, mais elle n'a jamais appliqué chez vous les réponses qu'elle donnait à l'antenne, ou en tout cas qu'elle avait ou avec ses patients.
Bah si, elle était exactement pareille. C'est ça qui est rare chez elle. Elle faisait comme elle disait comme elle faisait. Elle était dans la vie comme à l'antenne. Sauf que elle ne voulait jamais faire la psychanalyse avec ses enfants. Elle disait, moi, quand je suis pas dans mon bureau, je suis comme la concierge du coin. Et donc, quelquefois, on la tannait pour qu'elle nous donne des explications psy et elle voulait jamais. Mais dans l'éducation, elle était comme elle disait. Dans les émissions.
Elle le raconte souvent d'ailleurs. Dans beaucoup d'articles, elle raconte des petits épisodes. Alors au début, elle ne dit pas que c'est ses propres enfants. Évidemment, maintenant, on le comprend. Et puis petit à petit, oui, elle dit que c'est ses propres enfants. Donc qui lui servent de... Elle raconte des anecdotes, mais des anecdotes de la vie courante qui illustrent effectivement pour nous maintenant comment elle faisait.
Vous avez assisté à des séances, vous étiez entre guillemets spectateur de ces séances de Catherine Dolto.
Alors, oui, j'ai assisté à sa dernière consultation, mais je précise que nous n'étions pas spectateurs, nous étions acteurs. Oui, nous étions acteurs, et ça c'était évidemment incroyable pour nous.
D'abord, la dernière pendant des mois.
Oui, la dernière pendant 2 ans. Les 2 dernières années de sa vie, j'ai assisté. Elle a fait cette consultation pour les enfants de la pouponnière d'Anthony, à laquelle j'ai assisté. Et effectivement, des psychanalystes déjà confirmés, hein, on n'était pas tout jeunes, assistaient à cette consultation. Et ce que je voudrais dire, c'est que ça témoigne de plusieurs choses, mais la première, c'est de son désir de transmission permanent. du début à la fin. Là, elle était évidemment très connue, très expérimentée, mais dès le début, quand elle a commencé à l'hôpital Trousseau, c'était tellement formidable ce à quoi elle assistait, qu'immédiatement, elle a voulu le partager avec d'abord ses collègues, puis des gens qui sont venus. Hein, donc là aussi, c'est une constante. C'est une constante. Et nous qui étions là autour d'elle, nous pouvions participer. Nous pouvions participer. On en était très fiers d'ailleurs.
Oui, vraiment. Mais elle a aussi été beaucoup critiquée.
Oui, elle a été beaucoup critiquée. Bon, oui, bien sûr. C'est-à-dire que toute personne qui s'expose est critiquée. Vous savez, quand on fait rien, on n'est pas critiqué. Quand on fait quelque chose et que ce quelque chose a un impact sur la société, évidemment, on est critiqué. Et l'impact qu'elle a eu est gigantesque pour une psychanalyste. Il y a très peu de psychanalystes, quelle que soit leur importance, le fait que ce soit des grands théoriciens, etc., qui ont eu un tel impact. Donc, évidemment, elle a été critiquée.
Mais aussi, oui. Alors d'abord, pour l'impact, elle est quand même traduite dans le monde entier. Hein. Pour l'instant, pas encore en anglais, malheureusement. Mais je pense aussi qu'elle a été beaucoup critiquée par des gens qui ne l'avaient pas lue. Dans les critiques qu'on lui fait, il y a beaucoup de choses qu'elle n'a jamais dites ni faites.
Oui, ça, comme l'enfant roi ou le laxisme des parents.
Ça, c'est une énormité. Et puis tout le monde a gobé ça. Alors qu'elle disait toujours, l'enfant doit être périphérique par rapport au couple parental. Et puis, il y avait des sanctions, des engueulades, etc. Mais en même temps, c'était toujours dans la tentative de comprendre notre intention, enfin, l'intention de l'enfant en face, et de faire quelque chose qui soit juste et jamais humiliant, c'est-à-dire responsabiliser sans culpabiliser. Mais c'est rien à voir avec l'enfant roi.
Catherine Dolto, Caroline Eliachev, vous restez, on passe aux questions des auditeurs.
France Inter, le 6-9 de l'été, intervenez.
Bonjour Léa, vous êtes dans les Pyrénées-Atlantiques.
Oui.
Caroline Eliachev et Catherine Dolto vous écoutent.
Eh bien, je vais dire le plus rapidement possible. J'ai écouté Françoise Dolto les 2 ans des émissions parce que j'étais enseignante à mi-temps et le matin, je ne travaillais pas. Et ça a été formidable. Ça m'a fait passer des matinées extraordinaires. Et comme mes enfants avaient 2 ans, 3 ans, 4 ans à cette époque-là, j'ai essayé d'appliquer des petites choses, en particulier le truc le plus rigolo, c'était où mettre l'enfant devant le bidet que je fermais avec de l'eau et il pouvait tripoter l'eau tout tant qu'il pouvait. Moi, pendant ce temps-là, j'étais à la cuisine, je venais le voir, je mettais des éponges par terre et puis quand il avait fini, il n'y avait rien d'embêtant et je trouvais ça formidable. C'était les petites idées toutes simples de Françoise Dolto, il doit y en avoir bien d'autres. Et la question que j'aimerais poser à l'heure actuelle, c'est qu'on revient quand même beaucoup à Françoise Dolto était très logique, super logique. Je trouvais qu'elle disait des choses très logiques.
Léa, oui, posez votre question.
Eh bien, maintenant, on reparle beaucoup de Maria Montessori. On redécouvre Maria Montessori, qui a été une grande pédagogue, qui a appris des tas de choses par rapport aux pratiques. Mais ce qui me fait très peur, c'est qu'à l'heure actuelle, par des amis, j'entends dire qu'il y a des écoles Montessori privées, très chères des fois, selon les endroits où ça se pratique.
Léa, votre question.
Eh bien, ma question, c'est que je voudrais que tous ces principes restent dans l'école publique. Les maîtresses de maternelle sont formidables, appliquent Dolto, appliquent Maria Montessori. Et ma question, c'est que ça reste comme ça, mais que ça ne parte pas dans le privé.
Alors oui, alors ça c'est pas une question, c'est une réflexion.
Que d'accord.
Voilà, vous avez quelque part la réponse de Catherine Dolto et Caroline Eliachev.
C'est intéressant parce que Maria Montessori est contemporaine de Françoise Dolto et elle aussi dans son domaine a apporté énormément.
C'est un génie, Maria Montessori.
Ah oui, absolument.
Les jeux d'eau, on peut dire un mot sur les jeux d'eau.
Allez-y.
C'est parce que c'est très apaisant. Les enfants ont besoin d'un rapport à la nature et dans les appartements c'est difficile. Et quand on les met face à l'eau avec des choses à transvaser, à remplir, tiens quand c'est plein ça coule, etc. C'est une méditation en relation avec un grand élément qui est l'eau, et donc la nature, et ça les apaise beaucoup.
Et c'est quoi la révolution Dolto, entre guillemets? Qu'est-ce qu'elle apporte de la relation parent-enfant? Qu'est-ce qu'elle dit de nouveau?
Alors, bien sûr, on peut parler de la relation parent-enfant, mais surtout de la transformation du regard des adultes sur les enfants, et en particulier sur les nourrissons. Bon, pour le dire de façon un peu caricaturale, l'enfant était considéré comme, disons, un tube digestif ne réagissant pas, etc., etc. Et le fait qu'il y a eu un changement du regard des adultes sur les enfants, et en particulier sur les nourrissons, qui sont des sujets à qui on peut parler, qui comprennent le langage, ce qui est encore controversé aujourd'hui, mais de moins en moins car prouvé par les neurosciences, donc ça c'est absolument passionnant, qui a droit à la vérité de son histoire et qui doit être respecté en tant qu'être humain à égalité de désir avec l'adulte.
Catherine et en Dolto. Conséquence de ça, sortir de quelque chose qui était de l'ordre du dressage pour toujours essayer, de la part du parent, de comprendre l'intention de l'enfant, puisque l'enfant pense et est intelligent. Et c'est ça le grand changement, c'est-à-dire se sentir égal en tant qu'être humain, mais en gardant des rapports d'asymétrie. Il y a les petits, il y a les grands, il y a les parents et les enfants. Ça, elle l'a toujours dit.
Question de Chantal à Paris. Bonjour Chantal.
Oui, bonjour. Bonjour, je suis contente que ces deux grandes dames du psychisme viennent. Ma question, c'est pourquoi, moi qui écoute beaucoup la radio, j'ai aujourd'hui 70 ans, j'ai grandi psychiquement avec Caroline Eliashev et la fille de Madame Dolto et Madame Dolto. Je me pose toujours la question, on s'intéresse beaucoup aux neurosciences, et c'est bien, parce que ça fait d'immenses progrès, on en parle beaucoup, et puis je m'aperçois que le psychisme de l'homme est oublié. C'est une immense connaissance, ça a été une immense découverte. Pourquoi on ne l'utilise pas davantage pour exprimer l'humain, pour l'expliquer davantage, alors que le psychisme fait aussi beaucoup de progrès dans la civilisation? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas davantage? Pourquoi est-ce qu'on ne l'exprime pas davantage?
Caroline Eliashev.
Oui, je crois que aujourd'hui, il ne faut pas opposer ce que Madame appelle le psychisme et les neurosciences.
Alors psychisme,
voilà. Et donc les neurosciences sont en plein développement. Il ne faut pas plus les idolâtrer qu'il ne faudrait idolâtrer, comme ça a été à une certaine époque, la psychanalyse et le psychisme. Donc tout ça va à un moment se réunifier. Ce qui est en train de se passer est totalement passionnant. Hein. Et les neuroscientifiques et nous, psychanalystes, avons tout intérêt, un intérêt puissant, un intérêt pour les personnes, j'ai envie de dire, à communiquer entre nous et à nous apporter des connaissances et des réflexions réciproques.
C'est pas le cas aujourd'hui encore ?
Si. Ça commence à être le cas, et dans les unités de neurosciences, il y a des philosophes, des psychologues, etc., etc. Donc voilà, mais la démarche est extrêmement intéressante et on n'a pas du tout intérêt d'aucune façon à s'opposer. Il faut au contraire essayer de réunifier tout ça, tout en sachant quand même que chaque discipline conserve ses particularités.
Catherine Dolto.
On est en train d'arriver enfin à l'époque de la transdisciplinarité comme une évidence. Il était temps.
Ce que
toutes les disciplines doivent dialoguer, oui. Et peuvent dialoguer.
Votre mère, Françoise Dolto, le prenait ça déjà ?
Oh, d'une certaine façon, oui.
Où il y avait
elle s'intéressait à tout. Oui. Mes parents, ils lisaient tout, ils recevaient des scientifiques de tout genre et de tout poil et du monde entier. Oui, ils étaient transdisciplinaires par essence. D'ailleurs, ils travaillaient ensemble. Mon père était un grand médecin de médecine physique, rhumatologue, ostéopathe et tout ça. Non, c'était effectivement une pensée. C'est en ça qu'ils étaient en avance, d'ailleurs, sur leur temps, je pense.
Patrick est dans le Maine-et-Loire. Bonjour Patrick.
Oui, c'est Patrice. Bonjour.
C'est Patrice, pardon.
Je vous en prie. Oui, voilà. Moi, je suis originaire d'un monde catholique et ouvrier. Et en fait, Françoise Dolto, elle était connue par une revue qui s'appelle La Vie catholique. Et donc, ma question, c'est ça. Est-ce que, là, je reviens peut-être à l'œuvre de Françoise Dolto. Est-ce que vous pouvez évaluer comment elle a pu aussi être connue par une revue comme celle-là, auprès des familles des familles toutes simples, on va dire. Hein. C'était une chronique que moi, j'attendais dans le journal de la vie catholique. Je l'attendais toutes les semaines. Voilà.
Catherine Dolto.
Françoise Dolto, elle était d'une culture chrétienne. Mais elle n'était pas du tout catholique pratiquante. Sur sa table de nuit, il y avait Ramakrishna, etc. Et mes parents avaient des amis de toutes les spiritualités. Mais comme elle était dans une culture chrétienne, elle a beaucoup réfléchi au christianisme et les valeurs les valeurs chrétiennes qui sont les valeurs d'humanité de partout l'intéressaient beaucoup, mais elle a écrit là-dessus l'évangile au risque de la psychanalyse, la foi au risque de la psychanalyse, et ça a fait un peu une bombe, parce qu'elle appelait le Christ le maître du désir, en disant il appelle les gens à suivre leur désir.
Caroline Eliachev, vous l'avez abordé dans votre livre, et je voudrais qu'on l'aborde rapidement, mais expliquez quand même. On a dit, elle parle de l'enfant, de l'inconscient, de la relation des parents à l'enfant, et l'enfant est une personne. Il y a aussi une vraie avancée, ce sont les maisons vertes. La création de ces maisons vertes qui sont un lieu, c'est pas une crèche, c'est pas une garderie, c'est autre chose, et ça aussi c'est une avancée.
Ah, c'est plus qu'une avancée, c'est une institution, on va dire ça comme ça, qui a une particularité, c'est qu'elle est universelle. C'est-à-dire, je ne connais pas d'autres institutions inventées par une psychanalyste ou même par d'autres qui puissent être exportables dans tous les pays du monde, y compris les pays totalitaires. Voilà. Le but, c'est donc ça s'adresse aux parents et aux enfants de 0 à 3 ans pour prévenir, au départ c'était pour prévenir les séparations dites normales de la vie, l'entrée en crèche, le premier séjour chez les grands-parents, l'entrée à la maternelle, etc., etc. Donc c'est une invention extraordinaire.
On a le temps de prendre une dernière question. Christelle à Paris, bonjour Christelle.
Oui, bonjour. Ma question sera simple et rapide. Je voudrais savoir s'il est interdit d'interdire ne provient pas de la philosophie de François Zolto. Merci.
Sûrement pas.
Pas du tout. Ça serait même l'inverse.
Oui.
Il est permis d'interdire, mais, et il est même souhaitable d'interdire.
Voilà, mais il est recommandé d'interdire intelligemment. Et en étayant son interdit.
Et c'était le message de votre mère aussi, c'est-à-dire que les parents ont des droits et des devoirs, ils ne sont pas...
Oui, les enfants aussi.
Et les enfants aussi. Merci à toutes les deux, Caroline Eliachev. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Françoise Dolto, une journée particulière parue cette semaine chez Flammarion. Merci aussi beaucoup à vous, oui. Catherine Dolto.
Il y a des choses qui vont sortir aussi chez Gallimard bientôt, là, autour de maman.
Vous auriez dû me l'amener, Catherine Dolto. Merci en tout cas à toutes les deux d'être venues ce matin. Et sachez que ce soir, rediffusion à 20h d'Affaires Sensibles, l'émission de Fabrice Rouel consacrée à Françoise Dolto.